Bonjour, chers lycéens, lycéennes, chers auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. Aujourd'hui, je vais faire une émission un peu particulière, puisque je vais répondre à une question que m'a posée une élève, Priscilla, par rapport à l'émission sur la gouvernance mondiale depuis 1944 que j'ai faite il y a 15 jours maintenant. Donc, elle me pose les questions suivantes plutôt. N'y a-t-il pas moyen de contrôler les FTN et leur puissance? Et les citoyens ont-ils un pouvoir? Pouvons-nous boycotter les FTN? Alors, je vais répondre à ces questions et puis je vais donner aussi en partie mon point de vue en tant qu'historien et géographe et puis peut-être aussi citoyen. Donc, les FTN, donc les firmes transnationales, ce qu'on appelait avant les multinationales, sont plus puissantes que des États, qu'ils soient donc des États de pays riches, des pays en voie de développement ou des pays émergents. Et je ne compte même pas ceux qui sont dans des pays qu'on appelle mal avancés. Elles ont des organisations à la fois verticales, hein, c'est le siège social qui donne ses ordres directement jusqu'à la dernière usine, mais aussi horizontales, c'est-à-dire que elles peuvent avoir des activités dans des domaines différents. C'est-à-dire, je peux avoir le pétrole, je peux être aussi dans le textile, je peux être aussi dans la haute technologie, je peux être aussi dans l'automobile. Ce qui fait que les boycotter a très peu de pouvoir, puisque à partir du moment où vous boycottez une entreprise, la FTN peut se refaire en fait des bénéfices sur un autre secteur d'activité. Cette organisation interne des FTN est à mettre en avant. En plus de ça, souvent les FTN, contrôlent les médiums. Ce qu'on appelle les médiums, c'est la télévision, la presse écrite, les réseaux Internet. Pourquoi? Parce qu'ils ont suffisamment d'argent pour financer les publicités des grands médias que nous avons aujourd'hui à notre disposition. Alors, je donnerai des exemples français, histoire que ce soit bien clair. On imagine mal le Figaro, par exemple, faire une enquête sur le Rafale ou les usines qui sont qui appartiennent au groupe Dassault, par exemple. On imagine plus mal encore Le Monde ou Libé faire des enquêtes contre l'un de leurs bailleurs de fonds qui est, par exemple, Free. D'accord? Donc, leur PDG, les présidents directeurs généraux donc de ces entreprises, les grands patrons donc, sont quasi intouchables. Alors je donnerai comme preuve hein, l'évasion rocambolesque du PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, de son confinement judiciaire au Japon pour le Liban. Et je ne parle pas de cette interview internationale, enfin quoique internationale, pas véritablement, puisque les médias japonais n'avaient pas été invités à venir dans la salle d'audience pour cette interview, donc où M. Carlos Ghosn s'est fendu d'une défense, sans d'ailleurs de contrepartie ou de réponse possible de la part des journalistes qui étaient devant. Donc attention, le Japon. Au contraire de ce que vous nous a fait croire Monsieur Carlos Ghosn, le Japon n'est pas un pays dictatorial avec un système judiciaire moyenâgeux. Ils ont un système judiciaire qui est le leur. S'ils méritaient la prison au Japon, ou en tout cas d'être mis au Japon dans une maison, en confinement, en résidence surveillée, hein, on peut rappeler ça comme ça, eh bien c'était bien pour des raisons judiciaires. Donc nous avons une succession de crises. Je vous invite à relire les presses des 10 dernières années, 20 dernières années, hein, entre les Panama Papers, les Footleaks, le scandale à l'heure actuelle de la Coupe du Monde au Qatar. Bref, les scandales se suivent et n'aboutissent pas toujours à des condamnations des firmes transnationales ou des États qui se servent de ces firmes transnationales. Les firmes transnationales sont effectivement les amies des États. Pourquoi? Parce que, il faut avoir le nombre et la puissance des FTN que vous possédez dans un État montrent votre puissance mondial. Ça, il faut en plus que ça se voit. C'est ce qu'on note donc dans les centrales business districts du monde entier, hein, que ce soit Manhattan, que ce soit la Défense à Paris, que ce soit jusqu'au siège social de la Compagnie Générale Maritime à Marseille. Eh ben, il faut que le siège social se voit. Donc, et il faut montrer donc votre puissance. Le pays qui en possède est ainsi influent dans le monde et il peut parler dans les grandes réunions du G20, il peut décider dans ces réunions, que ce soit au G7 ou au G20, il peut décider de l'avenir du monde d'un point de vue économique, social. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de FTN, eh bien, vous faites partie des 177 autres pays qui ne sont jamais invités à parler de la réglementation mondiale. Et donc, vous êtes dominé par les 20 pays qui gouvernent à l'heure actuelle le monde. Pour les démocraties ou pour dans des régimes démocratiques, contrôler une FTN, vous voyez bien que c'est très difficile, d'autant plus que vous avez des pays, par exemple aux États-Unis, où une campagne électorale coûte immensément cher et où les bailleurs de fonds sont souvent les patrons de ces grandes FTN américaines, ces GAFAM, hein, comme on les appelle, et qui vont ensuite faire des interviews fleuves dans les médias, comme hier soir, par exemple, le patron de Microsoft qui nous a fait donc rêver sur un monde meilleur alors que lui-même ne paye pas l'ensemble de ses taxes. Donc pour les démocraties, c'est déjà difficile. Pour les dictatures, c'est mission impossible. Vous pensez bien que un régime autoritaire, hein, quand je dis dictature, c'est les deux traits, hein, un régime dictatorial à la chinoise ou un régime autoritaire plutôt russe, on va dire. Donc pour ces régimes autoritaires, c'est plutôt difficile. Alors on a toujours cette image qui a été diffusée sur Internet, hein, il y a quelques années, avec Poutine qui menait à la baguette des PDG autour d'une table. Donc, n'exagérons pas, c'est bien une image de propagande réservée à sa population en disant mais regardez, donc ces oligarques que nous avons créés après l'effondrement du bloc soviétique, donc tous ces gens qui se sont enrichis en Russie en rachetant des entreprises d'État, eh bien regardez comme je les mène à la baguette. En fait, il y a une collusion incroyable entre le dirigeant du Kremlin et les grandes FTN russes que sont par exemple Gazprom. Et quand le dictateur n'a pas de FTN, parce que ça existe, vous avez des dictateurs qui n'ont pas de FTN, eh bien ils jouent la concurrence entre les FTN pour exploiter les richesses du sous-sol ou des fonds marins au large de leurs côtes. Alors c'est le cas notamment du Gabon avec Total, donc notre entreprise nationale, qui est en concurrence avec par exemple China Petroleum depuis peu pour l'exploitation du pétrole et du gaz au large du Gabon. Quant à l'Union européenne, eh bien la concurrence fiscale entre les 27 pays, puisque nous ne sommes plus que 27 pays, est tellement sévère qu'entre donc cette division entre les 27 États, eh bien il n'y a pas véritablement de pouvoir pour une Cour européenne de traduire devant le tribunal des FTN qui seraient contrevenantes. Et donc, et en plus de ça, ces FTN, eh bien elles payent des impôts, mais elles payent des impôts dans des pays où on fait pas trop payer d'impôts. C'est le cas par exemple de l'Irlande qui a réussi à faire un développement incroyable en l'espace de 40 ans, en étant mieux-disant au niveau des taxes sur les entreprises, ce qui a fait que, par exemple, Microsoft, quand ils ont eu à choisir entre est-ce qu'on va à Londres ou est-ce qu'on va en France ou est-ce qu'on va en Allemagne, ils ont dit Dublin, c'est très bien, on paye moins de taxes, donc on va mettre notre siège social là. Et quand notre ministre des Finances, monsieur Bruno Le Maire, taxe les GAFA, c'est très faiblement, hein, par rapport à n'importe quel chef d'entreprise ici présent sur notre territoire national. Ce que payent les GAFA, ce que payent les GAFA américains, c'est pas grand chose par rapport à ce que nous leur rapportons en cliquant sur Google et en partageant nos choses sur Facebook. Donc pourquoi est-ce qu'on les taxe pas trop. Ben parce que ces GAFA américains, mais pour les Chinois c'est pareil, hein, essayer de taxer Huawei ou essayer de taxer Alibaba, et vous verrez ce qui va nous arriver. Donc ces GAFA ont un puissant allié, et ils ont à chaque fois le président des États-Unis d'Amérique, ils rentrent dans la Maison Blanche et ont pignon sur les membres du Congrès dont ils financent une partie de leurs élections. Donc, dès qu'on taxe une GAFA, par exemple, nous, Français, ne vous inquiétez pas, le président des États-Unis, puisque les Français, ils ont fait ça, eh bien, on va leur taxer le vin, on va taxer le fromage, on va taxer les produits de luxe, puisqu'ils ont osé mettre une taxe sur Google et Facebook. Donc, et si les Allemands se mettent avec nous, en se disant, bah tiens, c'est bien, l'amitié franco-allemande, bah, on va faire comme les Françoises, hein, on va faire pareil, Trump va se fâcher très fort et il va faire en sorte qu'on ait une taxe, que les Américains mettent une taxe supplémentaire sur les produits automobiles allemands, les Mercedes, les BMW, les Volkswagen, eh bien aussi seront taxés. Donc en clair, hein, l'Union européenne, ben, c'est encore en construction, et tant qu'il n'y aura pas de fédération, ben, nous serons dans l'Antiquité, les cités grecques de la Ligue de Délos vis-à-vis d'Athènes, c'est-à-dire nous serons tributaires des désirs de Washington et des menaces de celle-ci, comme les cités de Délos l'ont été à un moment donné vis-à-vis de la grande cité d'Athènes. Quant aux citoyens que nous sommes, ben effectivement, on peut boycotter. Alors, je sais, on nous dit de temps en temps, nous n'avons pas le droit de boycotter. Non, on n'a pas le droit de boycotter un pays. Mais en revanche, on a le droit de boycotter des produits d'une FTN. Cette action, je rappelle, hein, le boycott est né en Irlande, ce sont les Irlandais qui ont inventé ce principe contre un gouverneur anglais, Sir Boycott. Cette idée de boycott a été reprise bien plus tard dans le mouvement de lutte pacifique, hein, par Gandhi. Vous avez aussi Martin Luther King, hein, qui a appelé au boycott aussi, à un moment donné. Donc vous avez, comme exemple, je peux vous donner par exemple l'exemple de Nike. Nike, donc, dans les années 80, faisait construire, fabriquer une partie de ses produits sportifs par des petits-enfants indonésiens. Donc, à un moment donné, il y a des journalistes américains qui ont fait une enquête. Cette enquête est retournée sur les médias américains et ça a tellement bouleversé les étudiants, notamment californiens, que ces étudiants californiens sur les campus américains de Californie ont décidé qu'ils ne courraient plus, joueraient plus au basket, n'achèteraient plus de produits Nike. Donc, tant que Nike ferait travailler des enfants en Indonésie. Donc, pendant des années, ben, nous avons des étudiants californiens qui ont fait cet effort de ne plus concourir avec des produits Nike au pied ou sur le dos ou sur les fesses. Donc, mais le problème, c'est qu'au même moment, eh bien, Nike a développé son investissement sur le basket. Et c'est la grande époque du NBA avec Michael Jordan. C'est la grande époque aussi où Nike a commencé à subventionner aussi les Jeux Olympiques en concurrence avec Adidas et à faire de substantielles économies ou plutôt bénéfices, dirais-je. Donc, si je prends une chaussure à 100 euros, hein, ce qui est quand même assez basique, hein, pour une chaussure Nike, hein, puisqu'on peut aller bien au-delà, sur 100 euros, donc vous en avez 58, c'est pour le distributeur, c'est-à-dire la personne qui vous vend le produit. Vous en avez 29 pour la marque, hein, donc Nike empoche 29 euros sur une vente de 100 euros. Vous en avez 12 pour l'usine, parce qu'en fait, vous n'avez pas véritablement d'usine Nike. Hein, c'est ça un peu la stratégie du groupe. C'est que c'est pas Nike qui faut produit. Elle donne à des sous-traitants, et ces sous-traitants donc touchent 12% en fait de la vente de la paire de chaussures. À noter quand même que dans cette usine, les salariés, donc les ouvriers, ne touchent que 0,4% de cette somme, c'est-à-dire quasiment rien. Les 8 autres pourcents qui restent, c'est notamment les taxes douanières quand il y en a, et puis bien sûr le transport, puisque je rappelle que cette mondialisation que nous vivons aujourd'hui n'est pas seulement pour les masques ou pour les gants, mais elle est pour l'ensemble des produits que nous consommons tous les jours, à l'exception notoire de nos aliments. Encore que on pourrait reparler de l'huile de palme. Donc les citoyens consommateurs sont naturellement informés. Les étudiants étaient prêts à continuer, mais ça n'a pas fait boule de neige dans la population. Et ce qui a eu pour et ce qui a créé pour Nike, ce qui a été fait contre Nike, donc ce boycott, pouvait être aussi fait pour Adidas, Puma, le Coq Sportif, toutes les autres marques de vêtements et de marques de vêtements, que ça aille de Zalando à Primark. Donc le t-shirt ou la robe qu'on achète 2 euros ou 20 euros, tous ces prix-là ne sont possibles qu'en faisant travailler des ouvriers que je qualifierais presque d'esclaves, que ce soit en Bangladesh, que ce soit dans les pays pauvres asiatiques, africains comme l'Éthiopie, ou que ce soit dans les usines textiles de Turquie, où les entreprises européennes et américaines, hein, puisque ce ne sont pas des marques chinoises, hein, qui viennent nous vendre, hein, c'est bien Pinky, tout ça, ce sont des marques européennes ou américaines, donc ils ont besoin d'une main d'œuvre, et cette main d'œuvre, je le répète quand même, il y a 40 ans, elle était chez nous, c'est-à-dire elle était dans le nord de la France, elle était du côté de la Drôme, elle fabriquait des chaussures, elle fabriquait des t-shirts, des pantalons, des choses de ce type. J'ai encore connu, moi, dans le lycée technique où j'ai fait ma seconde, des jeunes filles à Compiègne qui étaient instruites à être, on les appelait des fabulons, les jeunes filles fabulons, parce qu'elles sentaient l'amidon pour une raison très simple, c'est qu'elles faisaient un apprentissage de repassage pour l'industrie textile qui était située au nord de Compiègne, du côté de Noyon, dans toute cette zone que l'on appelle maintenant des zones mortes, puisque les usines en sont parties. Pourquoi elles sont parties vers la Chine, pourquoi elles sont parties vers la Tunisie, hein, puisque c'est là que l'industrie textile française a d'abord délocalisé. Elles sont parties du fait de la mondialisation et de ce qu'on appelle une nouvelle distribution internationale du travail, c'est-à-dire que nous, dans les pays riches et développés, nous ne serions en fait plus que des cerveaux, des artisans hautement qualifiés, et les ouvriers, la main-d'œuvre qu'on retrouvait sur les chaînes d'usine, elle est délocalisée vers des endroits où elle coûte le moins cher possible, où elle est la moins syndiquée, où les entreprises ou les États sont les moins regardants au niveau de certaines règles, comme les règles d'environnement, les règles d'hygiène et de sécurité, bref, tout ce qui embête une partie du patronat du MEDEF qui voudrait qu'on retourne vite au travail, même si le confinement actuel n'est pas encore tout à fait efficace. Donc, est-ce qu'on peut avoir une autre idée ? Est-ce qu'on peut avoir d'autres idées ou faire autrement ? Alors, certains économistes sont pour que l'on applique des lois antitrust, anti-FTN, comme celles qui ont été initiées en son temps aux États-Unis par Franklin Delano Roosevelt après la crise de 1929, c'est-à-dire qu'il a fait payer très cher le fait que ces grandes entreprises, ces grands trusts avaient contribué grandement au krach boursier de 1929. On peut avoir des actions aussi d'interdiction du lobbying, ou en tout cas de contrôle du lobbying, que ce soit au niveau européen, parce que je sais que les anti-européens n'arrêtent pas de dire qu'il y a du lobbying au niveau du Parlement européen ou de la Commission européenne. C'est vrai, mais il y en a aussi au niveau du Parlement français, il y en a aussi au niveau des conseils régionaux, il y en a à peu près à tous les niveaux, hein. Encore faut-il même que les citoyens que nous sommes, les consommateurs, soient informés, et donc avoir des infos libres et indépendantes sur l'économie. C'est pas la peine de nous faire de longs discours. Encore faut-il qu'il y ait des enquêtes qui soient menées. Et pour ceux qui penseraient que Internet est la voie de la vérité par rapport à des anciens médiums, c'est-à-dire la presse écrite, la télévision, qui sert au moins de pouvoir plus ou moins occulte de l'État, je rappelle seulement que il faut être très vigilant sur ce qu'on écoute sur Internet et sur ceux qui partagent sur Internet, même sur un réseau social aussi bas badin que celui de Facebook ou d'Instagram. Derrière, les gens qui partagent, vous pouvez aussi avoir des lobbies. Derrière, vous pouvez aussi avoir des FTN, parce que du schmoll qui travaille ou qui poste son poste, vous n'êtes pas censé savoir qu'il travaille pour une FTN célèbre. Y a-t-il vraiment... Et après, on peut aussi rechercher les sources, les spécialités des gens. Alors, je sais qu'en ce moment, vous avez une pléthore de journalistes qui semblent être spécialisés en tout. Voilà, on les voit tous les soirs à la télé, hein, que vous regardez le journal d'LCI, que vous regardez celui du BFM, que vous regardiez C'est à vous. Bref, c'est toujours les mêmes qui passent. On peut se demander si on ne devrait pas donner un peu plus la parole à des universitaires. Comment on ne devrait pas poser la question aussi, quitte à ce qu'il y ait des débats, hein, puisqu'il y a des débats universitaires. C'est un peu comme cette histoire de la chloroquine. Hein. On peut avoir des débats quand même. Je veux dire, on n'est pas obligé de prendre le professeur Raoult comme étant un dieu vivant et rejeter dans la masse les autres. Donc, il faut avoir les points de vue différents. Hein. C'est ce qui fait avancer. Et puis, c'est ce qui apporte aussi un peu de tolérance, hein, surtout dans les moments de confinement où certains en manquent beaucoup. Donc, et quant à la justice, que voulez-vous, hein, il faut avoir les reins solides. Affronter une FTN, c'est souvent pour un simple citoyen ou une petite organisation ou une association de citoyens, c'est souvent pot de terre contre pot de fer, comme on dit. Hein. Les FTN ont largement les moyens d'avoir un grand avocat du barreau qui a un cabinet incroyable. Et vous battez avec ce que vous voulez. Alors, bien sûr, on peut avoir des success stories, hein. On peut en vaincre de temps en temps, mais faire plier une FTN, c'est difficile. Alors peut-être faut-il penser à créer des concurrences inattaquables au niveau éthique. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse des entreprises éthiquement, socialement responsables, et puis en faire la promotion. Peut-être faut-il aussi peut-être acheter moins, être des consommateurs plus regardants sur l'origine des produits, sur la façon dont ça se produit, revoir les contrôles aussi des médiums, c'est-à-dire de la presse écrite, de la télévision, ou voire même d'Internet, demander à ce que dans les conseils d'administration, on n'ait pas seulement des syndicats, des gens d'État et compagnie, mais qu'on ait aussi des citoyens qui auraient une place dans ces instances de décision, au moins une place de contrôle. Avoir une véritable réflexion en fait sur le fait de consommer autrement, local ou mondial, faisons bien attention au localisme, hein. C'est pas obligatoirement la panacée pour tout. Alors on peut être content de produire ou de consommer des productions locales au niveau alimentaire. Je ne sais pas si on voudrait véritablement avoir une industrie textile sur les bords de la Durance très polluante. Voilà, je sais pas si on a véritablement envie d'avoir ça. Et quant à ce qu'il faut produire mondial, bah oui, il faut peut-être produire mondial, il faut donner de l'emploi à tout le monde, mais il faut en fait se poser la question de l'humain, être plus respectueux de la nature, être plus respectueux des droits de l'homme, être plus respectueux des clauses de l'Organisation internationale du travail, qui devraient être aussi prises en compte que celles de l'OMC. Donc il faut revoir un peu notre monde. Peut-être que le confinement nous permettrait en fait d'être plus généreux, enfin du moins il faut l'espérer, plus lucide, voilà. Et puis peut-être que ça demanderait aussi de revoir un peu la géographie du monde. On peut quand même se poser la question de l'excès de concentration sur un espace donné qui est à l'heure actuelle l'Asie, de toute la production mondiale. Est-ce que c'est véritablement bien? Est-ce que c'était véritablement bien d'ailleurs que ça soit qu'en Occident, c'est-à-dire aux États-Unis, au Japon ou en Europe, qu'étaient situées les usines avant. Je suis, moi, pour une redistribution internationale du travail. Les masques doivent pas être seulement faits en Europe, en France. Ils doivent être faits partout. Par exemple, si on prend des masques chirurgicaux, on pourrait très bien avoir des usines de production de masques en Afrique. On pourrait très bien avoir des usines de production qui soient plus décentralisées. décentralisé, moins concentré sur un espace, tout en garantissant aux populations, eh bien, un travail digne, un salaire digne, une vie digne. Voilà. En fait, il faut peut-être se poser véritablement la question de la dignité humaine et de son adéquation avec la nature qui nous entoure. Voilà, je pense que j'ai dû répondre peut-être à cet élève et à vous autres aussi. Si vous avez aussi des questions, eh bien, vous pouvez me les envoyer sur mon réseau Facebook. Voilà, je répondrai dans la mesure du possible avec joie. Et je l'espère, en vous donnant le plus de connaissances possibles par rapport à des systèmes qui sont parfois un peu complexes. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, un bon confinement, si on peut le dire ainsi, en espérant que tout se passe pour le mieux pour vous. Je voulais aussi faire un petit coucou à Marisa, qui est confinée. Hein, c'est une des charmantes personnes avec qui je travaille sur Fréquence Mistral. Voilà, et puis un grand merci à James aussi, hein, pour tout. Voilà, jeudi. Et puis voilà, on inventera quelque chose d'un peu nouveau. Jeudi, je vous présenterai deux œuvres historiques, notamment sur la puissance des États-Unis depuis 1945. Bisous, à plus.